Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Allez, on est de retour et ça discute dans le studio d'Europe Soir Weekend ce soir forcément. Beaucoup de choses à dire, beaucoup à débattre autour de l'actualité. Marie-Virginie Klein, conseillère en stratégie de communication, est avec nous. Jean-Yves Leborgne, avocat pénaliste. Édouard Dorian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Et puis Patrick Caram, vice-président du Conseil Régional Île-de-France. Alors je le disais, c'est le feuilleton en rebondissement de la semaine. À droite comme à gauche, ça négocie dans tous les sens pour gagner des soutiens. Tiens, on va commencer par l'union de la gauche. Enfin, l'union, c'est un grand mot, car ce soir, le PS, Europe Écologie des Verts, le Parti communiste, cherchent toujours dans un accord en vue des législatives. Alors, dans le dernier épisode, c'était vendredi, le PS et LFI étaient sur le point de trouver un accord avant de suspendre les négociations. Stop ou encore. Avant de vous entendre, je vous propose d'écouter ce qu'en pense l'ancien premier secrétaire du Parti communiste, Jean-Christophe Cambadélis, invité de Pierre de Villeneuve dans la semaine politique hier soir sur Europe 1.
On ne nous propose pas une coalition, on nous propose une reddition. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, la campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme. Même le PCF, pourtant plus proche de Jean-Luc Mélenchon que nous, s'en est offusqué dans une lettre qu'ils ont envoyée à LFI. Ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Corbière a parfaitement raison. Lui, il a besoin de marqueurs. Mais nous, on a aussi besoin de marqueurs. Parce que le Parti Socialiste a une histoire, a une présence, je viens de le dire, dans les collectivités locales. Même si Mélenchon était Premier ministre, il n'a pas la possibilité institutionnelle de décider, lui, de sortir des traités ou de ne pas les respecter. Et il n'a pas la possibilité institutionnelle de faire la 6e République.
On ne nous propose pas une coalition, mais une reddition. Patrick Caram, info, intox, vous le suivez là-dessus.
Oui, il faut être très clair, ils ne se sont pas entendus, ils ne se sont même pas parlé pendant 5 ans. La gauche a continué pendant 5 années d'opposition à jouer chacun de son côté. Comment voudriez-vous qu'en quelques semaines, même pas une semaine là, nous sommes à une semaine du deuxième tour, ils y arrivent et ils arrivent à faire « embrassons-nous, folle amour, tout va bien ». Non, c'est très compliqué, ça ressemble plutôt à un des travaux d'Hercule. Voyons dans quelle mesure c'est possible. La seule question, c'est que moi, il me semble qu'il y a de gauche. Une gauche qui est totalement, mais alors totalement, à l'antithèse de ce que peut prétendre Mélenchon. Voilà, ça c'est une question très claire. Quelles sont les valeurs que cette gauche va porter? Quel projet européen? Quel projet pour la société française?
Et je crois qu'il y a des points de tension, il y a des points de friction, mais on s'aperçoit que le PS est prêt à faire des concessions historiques.
C'est pas seulement des points de friction, c'est peut-être pour la gauche le fait de se condamner définitivement à ne plus jamais accéder au pouvoir s'ils goûtent au calice empoisonné que leur temps Mélenchon. Il faut l'avoir en tête. Deuxième élément qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'ils vont peut-être sacrifier le contenu à la survie politique. Vous savez que vous avez besoin d'avoir un groupe parlementaire, vous avez besoin d'avoir le maximum de députés présents sur tous les territoires, vous avez besoin d'exister politiquement. Si vous n'avez pas de groupe politique, vous n'existez pas. Et puis chaque parlementaire, chaque rapporte au parti politique et puis chaque candidat rapporte à son parti. Donc là, l'enjeu qui se joue aujourd'hui, c'est au-delà du contenu, c'est un enjeu sur la survie du Parti Socialiste notamment.
Parce qu'on parle effectivement d'ajustements qui sont envisageables, mais outre les marqueurs programmatiques, le point de tension finalement, c'est le nombre de le partage des circonscriptions qui risque de se faire, selon Mélenchon, selon les résultats de la présidentielle. Ça ferait 1,7% seulement pour les socialistes, forcément c'est peu, et c'est finalement cette attribution qui engendre le rétropédalage du PS, Marie-Virginie Klein.
Alors un mot d'abord sur la méthode pour attribuer les circonscriptions. Chaque fois, quand même, on se retrouve à la veille du moment où on doit les attribuer. Et à chaque fois, on a l'impression d'assister à une foire d'empoigne. Il n'y a aucune méthode, sauf celle que propose Jean-Luc Mélenchon. Mais visiblement, personne n'y adhère. Et donc, quand même, c'est très étonnant, toujours quand on a un observateur, de regarder ça. Deuxième chose, si on regarde les scores, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22%. Le PS, il n'a même pas fait 2%. Et les écolos, moins de 5%. Donc, évidemment, qui ne vont pas pouvoir envisager d'avoir un fort nombre de circonscriptions. Et si on regarde la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, lui, son objectif, c'est plus de s'imposer comme le l'homme de gauche, la figure de gauche, d'où ce vocabulaire très égocentrique, ce jeu, c'est plus de s'imposer comme la figure de gauche et moins de rassembler, parce que lui, d'un point de vue mathématique, il n'a pas un intérêt réel à rassembler, mais c'est d'un point de vue d'image, il a intérêt à s'imposer comme
Il veut s'imposer comme la véritable opposition
gauche.
Aussi
l'Union
à la majorité.
Populaire élargie, et donc il voudrait faire disparaître d'un côté le PS, peut-être d'un autre côté Europe Écologie Les Verts, faire un peu ce qu'Emmanuel Macron a fait en son temps avec justement le PS et les Républicains.
Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste.
Je voudrais dire un mot sur rappeler le système électoral. Nous sommes dans un système où, alors même que l'on fait un score à la présidentielle au niveau national important, on peut n'avoir aucun député, puisqu'il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Et là, le problème se pose de savoir si l'on est dans la conservation de la pureté théorique du parti auquel on appartient, ou si, au contraire, pour sauver quelques sièges, on prend un accord électoral qui n'est pas nécessairement la reddition dont parle M. Cambadélis. Ça, c'est une vraie question, parce que je pense d'ailleurs que ce qui se pose au sein de la gauche se pose dans les mêmes termes au sein de l'extrême droite, entre Reconquête
et le Rassemblement National. Oui, on va en parler dans quelques instants. Vous devancez le débat, Jean-Yves
Non,
Le Borgne.
Rappelons-nous, sur son temps. Il faut une majorité absolue des voix exprimées pour être élu. Et on peut faire 22% et ne pas l'avoir dans aucune circonscription.
Édouard Orian-Sipel.
Encore une fois, ce sont 577 élections en France et la France insoumise n'est arrivée en tête que dans 105 parmi elles.
Il parle d'une union élargie qui représenterait 11 millions de voix.
Et sur quelle base ?
Sur
quelle ligne politique ?
Il dit qu'il faut être uni pour gagner.
En désobéissant aux traités européens, ça correspondrait à un Frexit de fait. En disant que demain, si on est au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon, on ne livre plus d'armes à l'Ukraine ? Et où habite-t-on ? Quelle France veut-on ?
Mais le PS est prêt, vous avez vu, à faire des concessions.
Et c'est la raison pour laquelle
concernant les dispositions, la loi El Khomri.
C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Parti Socialiste. J'avais anticipé cette décadence politique de la direction nationale du Parti Socialiste, qui avait choisi de courir derrière la radicalité de Jean-Luc Mélenchon, voire
donc
de certains écologistes.
Donc la culture de la loose, vous êtes d'accord avec Mélenchon
Mais
pour une
je
fois.
Crois que c'est la culture de la radicalité qu'ils ont choisie, plutôt que la culture de la responsabilité, celle qui permet d'être en situation de gouverner, de diriger la France. Vous savez, quand je regarde la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, j'ai le sentiment de retrouver un peu ces enragés de 1793. Vous savez, c'est ce mouvement qui voulait tout déboulonner, les statues, faire table rase de tout, tout effacer pour essayer de construire un monde nouveau. Ces enragés dont Brissot, qui était le chef de file des Girondins, disait que le caractère de ces enragés est de porter à l'excès leur doctrine populaire. Voilà, l'excès, la radicalité, tout ce qui ne permet pas de rassembler. Mélenchon a peu retenu des leçons politiques du vieux, celui qu'il appelle lui-même le vieux, c'est-à-dire François Mitterrand. Ce n'est pas comme ça qu'on rassemble la gauche. On doit faire une part à une forme de radicalité, mais on doit surtout donner de la crédibilité. Aujourd'hui, la social-démocratie, qui est le cœur identitaire du Parti Socialiste, du socialisme humaniste, du socialisme démocratique, celui de Léon Blum, celui de Mitterrand, de notre culture politique, il n'est plus aujourd'hui sur la ligne choisie par le Parti Socialiste. Ils sont
donc
prêts
pour
à
vous,
se
le Parti Socialiste est mort
aux Insoumis. Et elle est aujourd'hui chez Emmanuel Macron, territoire de progrès, accueille tous les sociodémocrates, les socialistes sincères, Jean-Yves Le Drian, Olivier Dussopt, qui sont au gouvernement encore aujourd'hui, Bertrand Delanoë, qui a appelé aussi pour cela à voter pour Emmanuel Macron. Je crois que malheureusement, le Parti Socialiste ayant abandonné la ligne social-démocrate et d'une gauche crédible, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne.
Je repose ma question. Pour vous, le Parti Socialiste est mort ?
Je pense qu'effectivement, en tout cas, il est pour le moins le PS, le parti soumis aux insoumis. Et il faut savoir garder ses lignes fondamentales. Mitterrand n'avait jamais lâché face aux communistes sur deux points fondamentaux. L'Europe, d'une part, la défense nationale et les alliances atlantiques, d'autre part. Ça, Jean-Luc Mélenchon est en train de le remettre en cause.
Il y croit, Jean-Luc Mélenchon.
C'est très sérieux, les enjeux, là.
Il y croit à ces négociations, mais il n'est pas le seul. On va écouter, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, à propos, justement, de ces tractations en cours.
Dans les négociations, il y a toujours des allers-retours, alors, notamment avec le Parti Socialiste, où chacun conviendra qu'on n'attendait pas forcément un gérimento, c'est-à-dire véritablement un parti socialiste pour le coup qui revient à gauche. Ça ne pouvait pas se faire en deux réunions. Et que nous, ce qu'on a bon espoir que ce week-end, ça finisse par se conclure avec Europe Écologie, le Parti communiste, le Parti socialiste et pourquoi pas le NPA. Conclure cet accord, c'est le fait de partager une stratégie, celle de l'Union populaire, un programme, celle d'avenir en commun, même si on est capable de le bouger, de l'ajuster pour que chacun se sente bien. Et surtout, c'est offrir une possibilité de gouverner le pays.
Enfin, voilà, Éric Coquerel, oui.
Juste un mot, c'est quand même une affaire
Patrick
de gros
Carin.
Sous. C'est quand même une affaire de gros sous, parce que si vous n'avez pas 50 circonscriptions, des candidats donc dans 50 circonscriptions, et vous savez qu'au-delà de 1%, vous touchez 1,43€, enfin 1 euro oui. quelque chose, par électeur, par an. Ça veut dire que pour un parti, c'est une manne. C'est une manne financière qui peut vous permettre de vivre, d'avoir oui. des cadres, un siège social, de faire fonctionner votre parti, faire fonctionner aussi la démocratie intérieure, faire fonctionner les provinces. Si vous n'avez pas ça, vous n'existez pas. Or, Mélenchon, il ne leur propose pas 50 circonscriptions. Ça veut dire qu'il ne leur propose pas d'avoir la possibilité d'avoir cet argent qui est absolument important. Donc, il y a deux éléments. Il y a effectivement le fond. Moi, je m'amuse beaucoup en écoutant Eduardo Riancipel. Je n'ai pas envie de le taquiner. Je lui aurais dit, mais enfin, quand même, territoire de progrès, avaler toute la soupe à la grimace d'Emmanuel Macron. Ben, si c'est ça la gauche, c'est une gauche furieusement libérale, finalement. Et sécuritaire, c'est vite dit. Mais enfin, pendant le premier mandat, cette gauche-là, on ne l'a pas tellement entendue parler à l'oreille du président de la
rapidement,
République.
Rapidement, vous avez un droit de réponse, forcément. Je ne vais pas vous l'enlever, Eduardo, mais
chacun
rapidement.
Chacun trouve amusant les choses que l'autre peut dire. À mon tour, je trouve amusant ce que dit Patrick Caham. Non, moi, je suis très à l'aise et très fier d'être dans une formation politique présidée par Olivier Dussopt, qui est ministre encore du budget, des comptes publics, et qui a été le ministre qui a mobilisé 150 milliards d'euros pendant la pandémie pour protéger les Français. Si ce n'est pas de gauche, si ce n'est pas rooseveltien, si ce n'est pas être étatiste et ultra-interventionniste, comme on aime l'être en France, comme l'est la social-démocratie avec son État social, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand on augmente la prime d'activité, le minimum vieillesse, quand on porte la retraite des agriculteurs à 1 000 euros, quand dans cette élection présidentielle, Emmanuel Macron a proposé, ça sera fait, la solidarité à la source avec le RSA, directement sans qu'on ait à le demander. Quand on propose la revalorisation, tiens, c'est au mois de juillet, là, le SMIC il va augmenter et ça va être 72 euros par mois sur chaque bulletin de paye à partir des semaines qui viennent.
Emmanuel Macron,
ça c'est le concret.
Tu m'as convaincu.
Il est aussi de gauche.
N'en jette plus.
Il est dans le dépassement.
Il est à gauche.
Il est dans
une
force centrale.
On vient d'en avoir la démonstration.
Allez, on relance le débat et on continue la discussion, bien sûr.
Il est libéral, il est social-démocrate. Il est aussi étatiste dans la pure tradition des grands présidents français. Il est à l'esprit gaullien.
On va écouter Pierre Jouvet, si vous le voulez bien, porte-parole du Parti Socialiste, justement, toujours et encore à propos de ces négociations en cours.
C'était des échanges complémentaires qui, à ce stade, ont marqué un certain nombre de désaccords. Des désaccords qui doivent être levés. Donc nous nous reverrons sans doute dans les heures qui viennent. Mais à ce stade, on a un certain nombre de points de désaccord qui doivent encore être levés et on va continuer d'évoluer.
Marie-Virginie Klein, à propos de ces négociations, stop ou encore, vous y croyez, vous, cette alliance possible? Parce que la deadline, c'est demain soir.
Lundi matin. Je suis mal placée pour vraiment savoir si ça va se faire ou pas, mais je ne vois pas d'autre issue pour le Parti Socialiste d'une part et Europe Écologie des Verts d'autre. Enfin, pour Europe Écologie des Verts, si, mais pour le Parti Socialiste, je ne vois pas d'autre issue que de céder un petit peu dans les négos.
Jean-Yves Le Borgne?
Ben écoutez, moi je ne lis pas dans le marc de café, je ne sais pas ce qui va se passer. Simplement, je note qu'on est dans l'hypothèse où des courants de pensée qui ont été des courants fondamentaux de l'histoire de France, je pense au socialisme notamment, sont aujourd'hui sur le bord de disparaître et que pour avoir un élu socialiste, il faudrait passer sous les fourches caudines mélenchonesques, ce qui est quand même tout à fait anormal. Et ce qui met sur la table un sujet d'actualité qui est l'instillation, comme disait François Mitterrand, d'une dose de proportionnelle dans le système. Parce qu'au fond, si là, les socialistes doivent au fond avaler leur chapeau pour avoir quelques députés, ça veut dire que le courant socialiste n'existe plus.
Alors, puisqu'on parle de parti, on va enchaîner avec la droite, on a plein de choses à se dire. On a parlé de la gauche, il y a une ouverture encore pour la réconciliation possible, semble-t-il. Le divorce, en revanche, semble bien acté à droite, à la droite de la droite, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui est en position de force. Forcément, le Rassemblement national refuse tout accord avec Reconquête. Alors, je vous pose la même question, en fait. Est-ce que ce retour à la réalité est brutal, finalement?
Écoutez,
pour Reconquête.
Je l'évoquais prématurément tout à l'heure, parce que c'est à peu près la même chose que ce qui se passe à gauche, avec une petite différence. D'abord, il y a les inimitiés personnelles.
Trahisons passées qu'on ne reproche pas, c'est un retour de bâton.
Je ne suis pas sûr que le discours d'Éric Zemmour disant que le nom de Le Pen était pour la 8e fois accroché à la défaite et ait été souverain pour créer une amitié. Mais il y a un autre phénomène, c'est ce que les militants, ou en tout cas ceux qui votent et qui soutiennent à la fois Reconquête et le Rassemblement national, disent que ce n'est pas du tout ce que dit Marine Le Pen. C'est au contraire une volonté de rapprochement. Alors, ça se fera, ça ne se fera pas. Là encore, je ne veux pas rentrer dans la divination, mais il y a un vrai problème, apparemment, de distorsion entre les chefs qui ne s'aiment guère et ceux qui votent pour eux et qui préféreraient l'entente.
Allez, on continue à parler, évidemment, à débattre avec nos invités autour de la table. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des débats. L'aventure continue, Europe Soir Week-end. À tout de suite.